Ah, est-ce qu'on est bien là?
Ouais,
on est bien.
On n'allumerait pas la radio?
Ouais.
Bon, on s'écoute Bartas alors, hein?
Ouais.
On s'écoute Bartas?
Ouais, on s'écoute Bartas.
On s'écoute Bartas.
C'est sur 107, ça?
Les matinales de Bartas, de 8h à 9h, sur le 107 FM.
Bon, allez, ambiance, bruit de plage.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes auditeurs et auditrices et bienvenue dans les matinales de Radio Bartas en ce merveilleux mercredi 23 mai 2018. Bon anniversaire maman, joyeux anniversaire maman. C'est mon émission, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille. De toute façon, c'est l'anniversaire de ma mère, alors je lui souhaite un très très bon anniversaire à l'antenne. Voilà, et il est 8h, on est ensemble jusqu'à 9h pour vous réveiller bien sûr dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur. Ça commence bien d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va se voir ce matin? Eh bien, on a eu un entretien très chouette avec Damien Bricoteau. Damien Bricoteau, le metteur en scène attitré de La Genette Verte, dans le partenariat qu'il a justement avec sa propre compagnie en ce moment. Il est venu en plateau pour nous parler de la pièce qu'il va jouer à partir de vendredi et jusqu'à samedi, donc c'est-à-dire vendredi et samedi, Le Songe d'une nuit d'été, qu'il a monté avec des comédiens professionnels et des comédiens amateurs d'ici. Et en parlant de comédiens professionnels, il était accompagné de 4 d'entre eux. Alors avec lui, et avec eux surtout, on a discuté justement de comment la mise en scène, de pourquoi, de qu'est-ce que ça fait de jouer ici, de travailler ici. Et on va même écouter en preview quelques morceaux qui vont être diffusés lors du spectacle. Bref, ce sera tout ça à partir de 8h15, 8h20 à peu près, quand on aura fini la première partie d'émission. Le tout avec une bonne petite programmation musicale, bien évidemment. Mais je vous propose de commencer tout de suite cette émission par les petites infos du jour. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dites-moi donc? Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui?
On sait pas. Tout le monde ment.
Alors, quelques petites infos que je voulais vous donner, auditeurs et auditrices, notamment le fait que Street Press a sorti un article absolument passionnant et que je vous engage à aller lire en entier, parce que moi, je ne vais pas le faire, je vais vous expliquer pourquoi, je vais juste vous lire l'intro, mais l'article s'appelle « La police a tué 6 personnes depuis un an ». Vous allez dire que je m'acharne hein, sur les policiers, mais bon, que voulez-vous face à des gens qui ont des flingues et du pouvoir? Il faut bien que les médias servent à quelque chose et au moins essayent d'être un petit contre-pouvoir autant qu'on peut. Mais je vais vous lire l'article. Alors, sur Street Press, sur le site de Street Press, qui est un site gratuit, je vous rappelle, vous pouvez aller voir les articles sans être abonné, c'est quand même assez génial. Je me demande d'ailleurs comment ils font pour survivre, bref, mais ça c'est autre chose. Il y a le portrait de ces 6 personnes qui ont été abattues par les policiers et aussi leur crime, en fait, simplement. Pourquoi est-ce que les policiers ont sorti les flingues à ce moment-là? Et vous verrez que la sortie de pistolet, on va dire simplement, est assez peu justifiée, en fait. Et ça vient surtout d'une loi qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. L'article, en fait, n'est pas spécialement là pour parler des 6 personnes qui ont été tuées, mais surtout pour parler de la loi qui a été mise en place et qui permet aux policiers de sortir leur arme à peu près quand ils veulent. Je vais vous lire simplement l'intro, vous allez voir, c'est assez édifiant. Quartier Kennedy, Chalette-sur-Loing, dans le 45, un groupe de gamins joue au basket au pied des immeubles bas. Quelques-uns se baladent à vélo le long du trottoir, profitant de la météo clémente, ce samedi 19 août 2017. Des policiers s'approchent des voitures stationnées, ils viennent interpeller Louis Bico. Le quadra qui habite le bâtiment voisin est installé au volant du véhicule. Le mouvement des Bleus a tire des badauds, parmi eux de très jeunes, certains smartphones à la main filment la scène. Le suspect effectue une manœuvre et prend la fuite au volant de sa voiture. 3 des 6 fonctionnaires à pied, déjà distancés de plusieurs mètres et largement hors de danger, et c'est ça qui est très important, lèvent leurs flingues et font feu. Plusieurs balles traversent la vitre arrière et atteignent mortellement les conducteurs, tandis qu'une douzaine de projectiles se perdent dans la nature en direction des riverains terrorisés. Le décès de Louis Bico n'est pas un cas isolé. Depuis le dernier bilan publié par Street Press en mai 2017, au moins 6 personnes ont été abattues par les forces de l'ordre. 2 d'entre elles qui avaient agressé des passants à l'arme blanche font l'objet d'une enquête du parquet antiterroriste après que leur acte a été revendiqué par l'organisation État islamique. Les 4 autres ont été abattues dans leur voiture alors qu'elles tentaient de se soustraire à un contrôle d'identité. Pour plusieurs d'entre elles, les fonctionnaires ont fait feu alors que leur vie n'était pas en danger. En effet, le 1er mars 2017, un nouveau texte est venu garnir l'arsenal législatif français, la loi relative à la sécurité publique. Ça faisait partie des grandes lois sécuritaires auxquelles on a eu droit même avant Macron, c'est vous dire. Ces lois au contour flou élargit largement la notion de légitime défense et autorise les policiers nationaux à faire usage de leurs armes pour immobiliser des fuyards susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à l'intégrité physique d'autrui. Jusque-là, seuls les militaires, dont les gendarmes donc, y étaient autorisés. En clair, elle permet de faire feu même lorsque la menace n'est plus immédiate et qu'elle ne pèse plus sur le fonctionnaire lui-même. Dès l'hiver 2017, certains syndicats, ONG et un député montent au créneau pour contester le texte. Parmi les opposants, le défenseur des droits Jacques Toubon, ce chiracien nommé directement par le président de la République, fait part de son inquiétude. Selon lui, le texte risque d'augmenter l'utilisation des armes car il donne le sentiment d'une plus grande liberté pour les forces de l'ordre. Bon, nous ne sommes pas encore dans une société à l'américaine où il est normal de tirer avant de poser les questions ensuite, mais nous sommes de plus en plus inquiets, commente Dominique Noguère de la Ligue des droits de l'homme, l'organisation s'était déjà opposée au texte lors de sa promulgation. La vice-présidente de l'association prend les pincettes nécessaires. Parfois, il est nécessaire de tirer avant de poser son diagnostic. Il y a une augmentation importante des décès par tir de force de l'ordre. On peut se poser des questions, juge-t-elle donc. Effectivement, les policiers et les gendarmes tirent peut-être plus facilement avec cette nouvelle loi. Comme je vous l'ai dit, je vous laisserai aller voir les portraits des 6 personnes. Et quand je dis des portraits, ce n'est pas des photos, hein, c'est des portraits écrits donc de ce qui s'est passé et pourquoi les policiers ont tiré. Mais ce qui est intéressant de tirer... jeu de mots, lol, de tirer justement comme conclusion, c'est cette idée que la loi, normalement, moi je suis toujours parti du principe qu'on ne doit pas tuer des gens. C'est peut-être un principe très utopique, hein, soyons très clairs, c'est peut-être très très naïf, mais je me suis toujours dit que la vie est sacrée, il ne faut pas la toucher, et nous en tant qu'humains, on n'est personne pour toucher à la vie. Bref, ça ce sont à la limite des conceptions philosophiques. Mais si on reprend l'idée simplement d'un policier, le but est de protéger, de nouveau, ça fait plus d'une semaine qu'on en parle avec ce qui s'est passé à Hull d'ailleurs, le but est de protéger. Donc là, comment justifier le fait qu'ils peuvent sortir leur flingue un petit peu n'importe quand? C'est qu'ils protègent la vie d'autrui en se disant peut-être que cette personne va faire quelque chose qui pourrait mettre en danger la vie d'autrui. En gros, si cette personne prend la fuite, peut-être qu'il va faire un excès de vitesse, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va traverser, peut-être va-t-il le renverser, donc j'ai le droit de le buter. C'est quand même un des raisonnements les plus absurdes que j'ai jamais entendu, et Dieu sait que pourtant j'y suis accoutumé aux raisonnements absurdes, hein. Je fais les infos trois jours par semaine ici. Mais cette idée simplement de justifier en fait un meurtre, parce que c'est pas autre chose, sous couvert que la personne est peut-être dangereuse, peut-être méchante, le problème il est là, il est dans le peut-être, il est dans c'est une possibilité. En effet c'est une possibilité, et ça veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour... prévenir en fait ce genre d'action ou ce genre de comportement bizarre ou de comportement dangereux. Le seul problème, c'est que la solution, c'est pas je peux sortir mon flingue quand je veux et tirer. Ça, c'est complètement fou parce qu'à partir de là, on peut tout justifier. Alors oui, en effet, on n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais j'aime pas non plus ce genre de remarques et de phrases pour la simple et bonne raison que ça donne une limite à ne pas franchir, mais... quand on voit la limite, on ne voit pas ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire, oui, en effet, heureusement qu'on n'est pas au niveau des États-Unis, parce que je vous rappelle quand même que c'est des sacrés tarés du flingue, ce genre de personnes, mais dire ce genre de choses, dire « c'est plus grave ailleurs », ça permet de minimiser ce qui se passe ici. Et le simple fait d'avoir cette loi qui permet la justification de meurtre est pour moi un immense problème, en fait, simplement. Un immense problème, et donner du pouvoir à quelqu'un, notamment qui a un flingue, parce qu'on sait que quand on a un flingue dans les mains, étonnamment, on se sent tout de suite plus puissant, lui permettre de tirer alors que lui-même n'est pas en danger, puisque avant c'était ça, c'était si le policier était directement en danger. Si la personne en face avait un comportement violent, ou si justement elle mettait sa vie à lui en danger, et là on pouvait plaider la légitime défense. Mais là, si sa vie à lui n'est pas directement en danger, mais qu'il imagine que la vie d'autrui est en danger, bah, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, excusez-moi de le dire, mais c'est un peu ce principe-là, quoi. J'ai jugé qu'il mettait en danger la vie des riverains qui habitaient ici en allant trop vite. En attendant, t'as tiré 12 balles, et il y en a forcément une, déjà, qui a touché l'autre, qui a touché le fuyard, mais en plus, les 11 autres, on sait pas trop où elles sont parties dans la nature. Je sais pas, dans la vitrine du magasin quelconque, ou chez la fenêtre de la vieille mémé qui était en accoudée et qui se demandait ce qui se passait. Enfin, voilà, je trouve, en fait, cette loi complètement absurde. Bien évidemment, ça fait un moment qu'elle est mise en place, mais je trouve ce rapport très intéressant, et je félicite Street Press pour ce travail, vraiment, de montrer exactement ce qui s'est passé, en fait, au lieu d'avoir un résumé très simple de genre, on a tiré parce qu'il fuyait un contrôle d'identité, qui déjà est un problème, mais à la limite, ça peut forcément bien passer chez certaines personnes. Là, de dire, voilà exactement ce qui s'est passé, les policiers n'étaient pas en danger, et pourtant, ils ont sorti leur arme et ont fait feu, je trouve ça vraiment très bien fait. Donc, je vous engage à aller voir l'article en lui-même, auditeur, auditrice. Vous allez sur Street Press, c'est gratuit en plus. Et de voir le portrait de ces 6 personnes qui ont été abattues par la police dans des circonstances un peu bizarres, permises par cette nouvelle loi, pas très très juste. Voilà, ça c'était la petite chose dont je voulais vous parler. Je vais pas aller plus loin dans les infos aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à écouter et à entendre avec Damien Bricoteau et ses comédiens. On va quand même se faire une petite pause musicale d'abord avec pas une nouveauté aujourd'hui mais un grand 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 classique que j'avais envie de réécouter parce que j'adore cet album. Je pense que c'est l'un des plus grands albums de rock de tous les temps et surtout que je l'ai écouté ce week-end dans un moment assez chouette. Donc je vous propose tout de suite d'écouter The Who's avec le morceau Behind Blue Eyes.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. That's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. Sad man behind blue eyes.
Behind Blue Eyes de The Who, bien évidemment, d'un des plus grands albums de rock jamais composé, Who's Next. Behind Blue Eyes qui a quand même une histoire un petit peu compliquée, puisque moi, comment je l'ai connu à l'époque de mon adolescence, c'est parce que cet imbécile de Fred Durst, le leadman et le frontman du groupe Limp Bizkit, l'un des plus mauvais groupes que cette terre n'ait jamais porté, on a quand même fait une reprise absolument dégueulasse, mais qui a beaucoup passé à l'époque sur les radios commerciales, sur MTV et sur ce ce genre de choses, etc. Et ça m'emmerde parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, je crois, qui ne connaissent que cette version et qui ne connaissent pas celle de base. Fred Durst aura vraiment fait beaucoup de mal à la musique, hein, en fait, quand on y réfléchit. Si vous êtes fan de Limp Bizkit, hein, auditeur, auditrice, surtout, ne m'envoyez pas de mail pour me dire que j'ai pas de goût musicaux parce que je ne les lirai pas. Bref. Allez, avec tout ça, on rigole, on plaisante. Je vous propose d'écouter du coup l'entretien qu'on a réalisé avec Damien Bricoteau, le metteur en scène de Songe d'une nuit d'été, qui sera joué du coup à la Jeunette Verte ces vendredis 25 et 26 mai, et les quatre comédiens qui étaient avec nous. Nous sommes ce matin un bon nombre en plateau, voilà qui fait plaisir, et nous sommes entourés de comédiens pour la pièce Le Songe d'une nuit d'été qui se joue les 25 et 26 mai, c'est-à-dire en fin de semaine à la Jeunette Verte, montée par Damien Bricoteau. Damien, bonjour.
Bonjour Camille.
Bonjour, merci d'être là ce matin, merci Damien.
C'est un passage obligé et néanmoins plaisant.
tu mets l'un avant l'autre, hein, si possible.
Je suis un peu fatigué, c'est juste pour ça, mais c'est beaucoup plus plaisant qu'obligé.
Tu m'étonnes que t'es un petit peu fatigué, et on va en parler surtout après, mais t'as aussi amené avec toi quatre comédiens qui
Absolument.
Vont jouer sur scène. Tout d'abord Guillaume, bonjour Guillaume.
Bonjour Camille.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Camille.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Camille.
Et bonjour François.
Bonjour, je dis pas Camille parce que tout le monde le sait.
Parce que tout le monde le dit, puis c'est au bout d'un moment, c'est pour flatter un peu mon ego. C'est très nécessaire ici. Merci beaucoup tous d'être avec nous aujourd'hui autour de ce plateau. Vous jouez tous dans Le Songe d'une nuit d'été, du coup monté par toi, Damien.
C'est ça.
On en a déjà parlé sur cette antenne, puisque mine de rien, nous avons
c'est
aussi
vrai.
Quelques autres comédiens un petit peu plus jeunes qui ont fait des petits tours par ce plateau. Mais je vais peut-être te demander de commencer simplement pour ceux qui l'auraient raté. Pourquoi montes-tu Le Songe d'une nuit d'été ici à la Jeunette Verte ?
Eh bien, pour plein de raisons. La première étant que donc la compagnie est installée à Florac depuis 3 ans maintenant, que c'est la dernière année qu'on travaillait en association précise et particulière avec la Jeunette Verte. Donc je cherchais un spectacle qui rassemblerait une troupe nombreuse. Je cherchais un spectacle festif qui soit une espèce d'ode à la liberté, à la jouissance et aux autres plaisirs. Cette pièce de Shakespeare, Le Songe, c'est une pièce que j'ai dans ma besace depuis pas mal d'années, que j'ai pas mal tourné autour à l'époque où j'animais des ateliers, même quand j'étais élève à l'école avec Sylvie, il y a quelques années, on va dire. Voilà, c'est une pièce qui m'a toujours fasciné parce qu'elle est totalement libre, totalement baroque, et que le projet aussi était de créer une troupe avec des acteurs professionnels qui sont ce matin au plateau avec nous, et avec des acteurs amateurs de Florac, c'est-à-dire des gens que j'ai rencontrés dans des stages, ce dont on avait déjà parlé ensemble. Donc voilà, je voulais une pièce un peu foisonnante, un peu joyeuse, un peu forte. Je voulais aussi m'attaquer à une pièce un peu classique, c'est-à-dire qui soit pas une pièce contemporaine, puisqu'on avait déjà présenté Je suis un rêve et Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué à Florac. Donc c'était, Le Songe me semblait rassembler tout ce dont j'avais envie de parler pour conclure ces 3 ans de partenariat, ces 3 ans de rencontres que j'ai fait en Lozère ici, ces 3 ans d'amitié que j'ai eu avec beaucoup de gens. C'était le projet qui me semblait le plus adapté, auquel j'avais le plus envie de m'attaquer.
Alors, tu parles de rassemblement. Justement, tu as rassemblé des comédiens autour
oui.
de toi, professionnels comme amateurs.
Oui.
Et je vais te demander l'exercice le plus rigolo à faire, c'est-à-dire, peux-tu nous présenter les 4
oui.
personnes qui sont avec nous
Mais
aujourd'hui?
C'est fort rigolo parce que c'est des gens qui me font beaucoup rire, donc ça va être très rigolo. c'est des gens avec qui j'ai essentiellement... Enfin, pas mal travaillé, à part François, qui est la découverte de
la vieille
distribution. Découverte. Donc, à côté de moi, j'ai Guillaume Collignon. Guillaume, on se connaît depuis beaucoup de temps maintenant, puisqu'on a commencé le théâtre quasiment ensemble. Guillaume, les Floraquois le connaissent parce qu'on avait présenté au Festival de la Soupe en 2016 un spectacle qui s'appelait À Table, qu'on avait joué dans la rue, qu'on avait joué Place au Beurre, et qu'on rejouera sûrement d'ailleurs l'année prochaine dans la communauté de communes de Florac. Donc voilà, Guillaume, j'ai eu envie de l'embarquer, évidemment, par petit clin d'œil pour les gens qui l'ont vu ici, parce que je sais qu'il a pas mal marqué les gens quand on a joué à table. Et donc il était pour moi évident qu'il faisait partie de cette distribution. À côté, on a Mathieu. Mathieu, on a créé ensemble Je suis un rêve en 2011, qui est un spectacle... Premier spectacle qu'on a créé à Florac, qui était des Contes de Gripari. Spectacle qui vit depuis sa petite vie, même sa belle vie, puisqu'on a fait le Festival d'Avignon l'année dernière, qu'on est parti en tournée, qu'on a joué au Café de la Gare. Et donc voilà, sachant le parcours qu'on a fait avec Mathieu à Florac, c'est quelqu'un qui s'est évidemment également imposé. Et c'est même un peu autour de lui que j'ai construit le spectacle. Donc c'était vraiment quelqu'un qui, pour moi, avait nécessité d'être présent dans cette distrib. Sylvie, on a travaillé ensemble il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, on peut le dire, allez, sans dévoiler son âge, évidemment. On a créé une compagnie ensemble en région parisienne qui s'appelait Baptiste et Compagnie, dans laquelle Guillaume jouait également. Et puis, on ne s'est jamais trop perdu de vue. Après, on a fait tous des choses un peu différentes. Et puis là, il s'est trouvé que l'occasion se représentait de travailler ensemble, de se redécouvrir, parce que c'est vraiment une redécouverte, ce travail avec Sylvie. Et voilà, et c'était pour moi une évidence de présenter, de proposer ce rôle à Sylvie, dont elle s'acquitte à merveille et avec beaucoup de talent. Et François, qui est donc, que je ne connaissais pas bien, voire je l'avais déjà vu jouer, François. François m'a été présenté par Lucie Joliot, qui ne pouvait pas être en plateau avec nous ce matin parce qu'elle est déjà en train de travailler. François, je l'ai donc vu jouer dans un spectacle que Lucie avait fait qui s'appelait Le Petit Prince. Et puis en parlant avec Lucie, parce que Lucie c'est quelqu'un avec qui je collabore vraiment, dans le sens où on travaille vraiment ensemble, pas que sur la lumière et le décor, mais sur toute la mise en scène et la mise en place des productions et des spectacles, m'a proposé François, que j'ai rencontré à Paris. On s'est fait une petite séance de travail à Paris, que j'appellerais pas audition, mais plutôt rencontre. Et puis j'ai été très très convaincu. François avait l'air très enthousiaste à l'idée de participer à ce projet un peu hybride. Donc voilà, j'ai embarqué tout ce petit monde.
Ça vous va, les autres, comme description? J'ai rien
parfait
à couper dans cette interview.
Ah, il est fort.
Et ben justement, je vais me tourner un petit peu vers vous quatre, puisqu'on sait que, de toute façon, que les points de vue des metteurs en scène et des comédiens ne sont jamais les mêmes. Mais de vous demander un petit peu, donc vous tous, vous jouez, vous montez ensemble donc Le Songe d'une nuit d'été, un des classiques absolus de Shakespeare. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel rôle vous jouez et pourquoi, qu'est-ce qui vous a attiré, peut-être que ça soit dans cette pièce ou que ça soit dans cette mise en scène de Damien? On va commencer complètement au hasard avec François, tiens, par exemple.
Ah bah tiens, ça tombe bien.
Ça tombe bien. Hein.
Écoute, c'est simple, je veux dire, d'abord la pièce est formidable, ça c'est un fait. Après moi je joue deux rôles, donc le duc Thésée, qui commence la pièce en fait, et puis ensuite je joue Oberon, qui est le roi des elfes, voilà, donc que de la noblesse. Et puis j'ai comme partenaire Sylvie, voilà, enfin disons en particulier, et puis Mathieu, et très peu Guillaume. Je regarde jouer en fait Guillaume, c'est ce qui est toujours assez agréable, voilà. Et puis pourquoi le projet? D'abord parce que c'est disons que c'est toujours très chouette de se dire on va s'immerger dans un lieu avec des gens du cru et voilà, puis des jeunes aussi, ça c'est très chouette. Il y a une passation de savoir, et puis un partage, voilà, ça c'est bien. Il y en a des plus vieux aussi. Et puis une petite chose rigolote, moi j'étais venu jouer en Florac pour les papis et les mamies en 79, donc voilà.
Donc, pour jouer quoi?
Petit bonhomme, les pas très morts, de Jean-Pierre Chabrol. Eh ouais, ça, t'étais pas né, je crois.
Ah non, là, j'étais pas encore là et j'ai pas rattrapé cette partie-là, tu vas, voilà, pour le coup. Ouais.
Donc, il y avait plein de petites choses sympathiques et en plus, je dirais, très excitantes à faire, voilà.
Donc c'est retrouvage d'endroit presque 40 ans plus tard, en fait.
Ben voilà, c'est ça. C'est retrouvage d'endroit 40 ans plus tard avec avec un beau projet et puis, je veux dire, un beau spectacle, en tout cas. Enfin, ce que j'en sais.
Alors moi, je partage donc le plus souvent le plateau avec François. Je suis très contente de ça. J'ai beaucoup de chance avec Guillaume aussi, un peu moins avec Mathieu. Mais je suis très, très bien entourée. Je suis très chanceuse. Et pourquoi j'ai pu dire oui à ce projet, si c'était ça la question?
Oui.
Parce que j'aurais pas du tout pu dire autre chose que oui. Je partais en grande confiance. Ça m'a fait plus que plaisir. C'était absolument évident. Florac, en plus, je dirais, travailler sur un territoire particulier, mais celui-là, parce qu'on l'a déjà connu, on a déjà joué ici.
Oui, c'est vrai qu'on avait fait des tournées à l'époque de la compagnie Baptiste,
voilà,
et compagnie.
Ouais. Il y a 20 ans, donc ça reste dans mes meilleurs souvenirs, simplement. Donc c'est parfait, c'est un projet merveilleux. On rencontre des gens merveilleux sur le territoire, ici. Je travaille avec des partenaires merveilleux.
Merveilleux, c'est le mot-clé, j'ai l'impression.
Tout va bien.
Mais c'est un peu
Oui, c'est le mot-clé, parce que je suis la reine des fées en même temps. Je m'entraîne.
Et c'est un peu le mot-clé de la pièce aussi, parce que la pièce, elle a une dimension totalement merveilleuse et féerique. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez juste dans ce terme-là.
Oui, alors la pièce a commencé bien avant même qu'on démarre les répétitions, puisque je suis le travail de la compagnie Damien Bricoteau à Florac depuis le début. Et en fait, depuis, ça fait 3 ans que Damien est en association avec la Jeunesse Verte, et depuis le premier jour, il était question que Le Songe soit la pièce qui clôture ces 3 années d'association. Et moi, avant même de savoir ce que j'y ferais, avant même de savoir si je jouerais dedans ou pas, ce qui m'a vraiment passionné là-dedans, c'est d'embarquer avec nous tous les gens qu'on croise depuis 3 ans, et à des âges différents, avec des parcours différents, avec des personnalités différentes. Et les premières fois, on a rencontré ceux qui sont devenus nos partenaires dans le cadre des stages que Damien a fait. Il a fait 2 ou 3 stages autour du travail de Shakespeare. C'était très inspirant, c'est-à-dire que rien que d'être assis dans un coin de salle, moi je venais en spectateur à l'époque, et de voir ces jeunes, ces moins jeunes, avec chacun leur parcours, leur vie, prendre en charge ce texte de Shakespeare, déjà ça donnait envie. Et alors quand après, Damien m'a dit, mais tu sais, il y a un rôle un peu particulier dans cette pièce, c'est une sorte d'esprit fou qui s'appelle Puck et qui, lui, quand les choses sont un peu trop lisses ou quand elles marchent trop bien, ça lui plaît pas du tout et il faut qu'il mette le bazar là-dedans, un grand renfort de magie. Et bah ça, forcément, c'est plutôt excitant. Et Damien a eu l'idée de scinder ce personnage en deux, c'est-à-dire que dans la pièce originale de Shakespeare, Puck est un peu en lien avec Oberon que joue François, le maître de la magie. Et là, j'ai une partenaire avec moi qui s'appelle Brigitte Revelli, qui joue une fée, qui incarne les gestes de la magie,
la pratique de la
magie. Et moi, plutôt comme un grand mage de la magie noire, je dirige tout ça de loin et c'est très, 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 très intéressant à faire.
Donc quand on te dit j'ai pensé à un rôle pour toi, c'est celui qui aime pas les choses trop lissées et qui aime bien foutre le boxon justement pour lancer l'intrigue de la pièce, ça te plaît?
Bah oui, évidemment, parce qu'en plus comme c'est pas tout à fait ma nature, c'est très excitant d'aller un peu à rebrousse-poil.
Eh bien moi je fais un personnage qui s'appelle Bottom, qui est un tisserand et qui fait partie d'un groupe de potes d'artisans qui décident durant la pièce de monter une autre pièce. Déjà moi ça, enfin bon, je connaissais le Songe d'une nuit d'été, mais je trouve que c'est assez génial le théâtre dans le théâtre, et pour le coup là, avec la mise en scène de Damien, ça donne lieu à des joies, des singularités avec les personnalités de mes camarades. Et ce qui m'a plu dans le projet au départ, moi déjà parce que j'étais très content de retravailler suite au spectacle qu'on a monté avec Damien à table. J'étais très content de revenir à Florac, travailler avec Damien et revoir toutes les rencontres que j'ai faites durant le Festival de la Soupe, que j'ai beaucoup apprécié. Et que
la soupe était bonne.
La soupe était très bonne.
C'est cool. La soupe est très bonne, hein, d'ailleurs.
Même si quand on a joué à table, on n'a pas eu l'occasion d'en manger beaucoup.
On était un peu occupés. On se fait toujours avoir de cette manière.
Mais je reviendrai pour ne faire que ça. Oui, très bien.
Je creuse un peu mes souvenirs de quand j'ai lu cette pièce il y a des années. Et as-tu la tête d'âne ou es-tu le lion qui fait peur aux bourgeoises mais qui ne doit pas faire peur aux bourgeoises?
Je suis la tête d'âne.
Tu es la tête d'âne, tu es la fameuse tête d'âne.
Pas que la tête.
Auditeur, auditrice, c'est une émission bien évidemment spoiler free. Vous irez voir vous-même pour comprendre de quoi qu'on cause. Non mais vous avez tous évoqué le fait un petit peu de dire bon ben voilà, on retrouve, on découvre un petit peu cet endroit, Florac et cette manière de travailler. On est dans un territoire où il est très difficile d'amener une forme de théâtre et une forme de théâtre même un petit peu différente qu'on peut trouver ici ou qu'on peut trouver ailleurs. Et on sait qu'il y a des différences énormes culturelles quand on joue dans un milieu rural, peut-être plutôt que dans une ville qui a une culture théâtrale différente. Qu'est-ce que ça a été vraiment pour vous, on va dire, peut-être un petit peu cette, la différence de travailler ici, peut-être ce que vous avez remarqué d'une manière ou d'une autre?
Mais en fait, j'interviens juste un petit instant.
Coupe-moi la parole.
Non, je te coupe pas la parole du tout. Je prolonge ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de ce partenariat qu'on a fait avec la Jeunette, c'était justement, alors je ne vais pas dire un travail d'éducation du public, pas du tout, mais un travail de découverte du public. C'est-à-dire que les gens, maintenant, depuis 3 ans, ils ont vu Je suis un rêve, ils ont peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, il y a du public quand même qui suit le travail de la compagnie, qui a découvert Je suis un rêve, qui a découvert Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, qui a découvert À table. Donc j'ai le sentiment, moi, que la Jeunette était un lieu plus spécifiquement adressé à la danse et qui commence à s'ancrer un petit peu plus dans la culture théâtrale. Et j'ai le sentiment que le public, il est prêt à suivre ça et qu'on a été des passeurs de ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va devenir après. Je pense que Alice, la directrice de la Jeunette, va continuer des formes de résidence et des formes de partenariat. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose de très logique comme ça qui s'enclenche au niveau du théâtre et j'ai l'impression que le public est prêt, en tout cas a envie et dans un appétit de découvrir ça.
Mais c'est d'autant plus intéressant de savoir qu'au début, quand tu as commencé ce partenariat justement ici, il y avait, j'ai pas envie de parler de responsabilité, mais il y avait quand même cette envie là et maintenant 3 ans plus tard avec ton dernier projet que tu mets en place et les expériences que tu as pu glaner, d'avoir vraiment cette idée de dire j'ai tenté de faire ça et j'ai senti une réponse
ouais,
de ce public-là.
Senti une réponse et surtout, moi, j'ai travaillé dans un vrai travail de proximité. C'est-à-dire que moi, par exemple, que ce soit sur Je suis un rêve, sur Quand j'avais 5 ans, on a, par exemple, toujours ouvert les répétitions au public. Pas toutes les répétitions, parce qu'on a aussi besoin de travailler un peu dans notre bulle, mais voilà, c'était vraiment l'idée de faire du théâtre de proximité, de travailler sur la rencontre et sur l'échange. Et de pas dire, on est des artistes, on est enfermés dans notre bulle et vous viendrez voir quand tout sera fini. Non, c'était aussi l'idée d'avouer la cuisine, d'avouer l'artisanat, parce que plus que des artistes, je pense qu'on est vraiment des artisans et qu'on façonne la matière, et de montrer ça aux gens et de leur donner accès à ça et de d'être sur l'échange et la rencontre. C'était vraiment le principe de ces 3 ans-là. C'était de la création artistique, évidemment, mais par ce biais-là.
Sentiment partagé pour vous, messieurs, dames, les comédiens ?
Oui.
Youpi.
Quel enthousiasme.
Mais c'est vraiment cette question-là que je voulais poser. Est-ce que ça a changé votre manière peut-être de travailler, d'être ici, quand, comment? C'est ça.
Moi,
qui
je ne crois pas en fait.
Pas du tout.
Que ça allait changer. Non. C'est-à-dire, j'ai pas. Nous, on est arrivés. On avait des partenaires de jeu, qu'ils soient Floracois ou que. Il soit, on s'est découvert aussi avec Mathieu et François, par exemple. Enfin, en fait, c'était une découverte simultanée en même temps. Et je n'ai pas senti qu'il y avait de différence, mais parce que je n'ai pas le parcours de ces trois années. Nous, on est arrivés comme ça et on a entamé les répétitions tous ensemble. Et j'avais l'impression que tout était neuf pour tout le monde et qu'on avançait ensemble sans se poser plus de questions.
Si on commence à faire la différence entre professionnel, amateur et tout ça, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que... on aborde la chose telle quelle, quoi. Je veux dire, on est là pour créer ensemble et voilà, on le fait ensemble. Hein. Après, je veux dire, chacun apporte ce qu'il peut, où il peut, quand il peut, et ça, c'est ça qui est bien. Donc, il n'y a pas de hiérarchie à ce niveau-là, quoi.
C'est en ça qu'il y a artisanat.
Voilà,
tout à fait.
Voilà. En revanche, moi, je trouve que là, pendant ces répétitions, là, on a fait combien de semaines?
C'est la cinquième.
C'est la, voilà, ouais. Cinq semaines de répétition. D'être aussi avec des amateurs, pour moi, ça m'a ramené à des bases de mon métier et d'une vision différente aussi, de retrouver effectivement, de répéter, c'est quelque chose d'assez commun pour nous. Voilà, ça nous arrive assez fréquemment. Et de voir la joie, l'envie démesurée parfois des amateurs, de nos collègues. Moi, ça m'a remis plein de baumes au cœur, plein de leur expliquer comment je travaille, de pouvoir mettre des mots et de l'expliquer. Ça fait des tilts dans la tête et c'est très très agréable.
De retrouver un petit peu, tu parlais de base de théâtre, de base de ton métier, de retrouver le plaisir des premières répétitions.
Exactement, et puis de le partager et puis de l'expliquer. Expliquer aussi de remettre des mots dessus, c'est très très plaisant. Moi, je vis une aventure vraiment très plaisante.
Alors, je vais peut-être approfondir un tout petit peu, puisque oui, parmi les amateurs, il y a des comédiens très 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 jeunes, voilà, ouais. Deux qu'on connaît notamment ici, Mélina et Martin, évidemment. Ouais. De travailler, voilà, justement comme ça avec des jeunes, hein, des ados, si c'est même pas des pré-ados aussi des fois, et de voir eux avec leur connaissances différentes, leur mode de vie différent justement, et de voir un petit peu l'enthousiasme qu'ils peuvent avoir, ça a dû avoir un impact peut-être sur
c'est
vous,
votre
manière de jouer.
C'est très émouvant en tout cas à observer. Quand on sait que là ils sont au bahut, que nous on a pu éventuellement faire, non pas la grasse mat mais aujourd'hui, mais c'est très émouvant et ils sont et en effet ils sont très 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 enthousiastes, ils sont très curieux, très demandeurs.
Investi,
c'est, j'allais dire appliqué, mais parfois ils sont appliqués, parfois ils sont investis, et en tout cas ils sont étonnants et super à observer.
Et ce qui est très malin là dans ce qu'a fait Damien, c'est que souvent quand cette pièce est montée, les quatre personnages des amoureux ont rarement l'âge du rôle, et dans la pièce ils ont vraiment cet âge là ils ont 15 ans, et découvrir ce que c'est une relation avec l'autre à 15 ans et les premiers émois et tout ce qui va avec et tous les questionnements. On a beau tous dire qu'on s'en souvient, qui peut faire ressentir mieux que ceux qui sont en train de le vivre. Et dès qu'on a commencé à travailler là-dessus, c'est génial parce que on ne peut pas avoir des gens plus à fleur de peau sur ces sujets que eux-mêmes. Et là, c'est la leçon pour nous parce qu'on avait une matière première incomparable pour travailler là-dessus.
Alors, revenons à la pièce en elle-même, Le songe d'une nuit d'été. Ça, c'est une question pour tous et c'est une question très classique, vous allez le voir. Un texte qui a autant été monté, qui a maintenant plein d'années, même s'il a des résonances aujourd'hui. Comment vous avez eu, vous, envie de le monter, que ce soit dans la mise en scène ou dans le jeu? Qu'est-ce qui vous parle énormément dans ce texte? Qu'est-ce qui détonne? Qu'est-ce qu'on va voir dans cette pièce, justement?
Déjà, comme disait Mathieu, le projet de départ, c'était pas... Enfin, de départ. Un des moteurs de départ, c'était de se dire que ces quatre rôles de jeunes soient tenus par des jeunes et par des ados. Et qu'on travaille sur une matière première à vif, comme dit Mathieu, et qu'on en fasse du théâtre. Hein, on n'a pas fait de la psychothérapie de groupe, fort heureusement, mais on en a fait du théâtre. Ça, c'était le point de départ. Et je pense que ça rajoute une dimension à la pièce qui est forte et qui donne encore plus de danger et plus de folie encore à ce projet. Après, il y a toute la partie pris en charge par Guillaume et sa troupe des artisans, qui est pour moi une véritable déclaration d'amour à toutes les pratiques amateurs, que ce soit théâtre, musique, danse, voilà, toutes les pratiques amateurs. C'est-à-dire le fait que des gens soient prêts à donner de leur temps pour une pratique artistique, alors qu'ils ont un métier, alors qu'ils ont des enfants, alors qu'ils ont une famille, alors qu'ils ont voilà tout un tas de trucs à gérer dans leur vie quotidienne. Et je trouve que cet investissement-là, moi, c'est de ça aussi dont j'avais envie de parler, et c'est ça aussi qui me touche dans la pièce. Et puis, la dernière dimension, qui est la dimension magique, moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours été très, très sensible en tant que metteur en scène et en tant que voilà, sur mon parcours de directeur de compagnie. C'est-à-dire cette dimension de la magie, cette dimension du surnaturel, qu'il y avait déjà, évidemment, dans Je suis un rêve, puisque c'était le thème principal et essentiel du spectacle, et qui avait aussi un peu dans Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, puisque le personnage principal se retrouve dans une espèce d'asile de fou, donc dans une dimension comme ça aussi de surréalisme, en tout cas de surréalité. Donc voilà, moi c'est un thème qui me parle, qui je trouve a tout lieu d'être sur scène, puisqu'on est au théâtre pour parler de, pas de la vraie vie, mais d'une vie fantasmée. Donc voilà, c'est vraiment ces points de départ-là. Et puis voilà, moi j'ai vraiment fait toute ma carrière, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours travaillé autour de ces thématiques-là et de la thématique de l'enfance, de l'adolescence. Et cette pièce, c'est un peu la somme de tous les thèmes que j'aime.
Monter cette farce un petit peu de magie, de fées, justement, qui se déroule en plein milieu de la forêt, la montée en plein milieu de la forêt, un petit côté destiné.
C'est ça. Et c'est vrai que le projet de départ était de le jouer en plein air. Bon, malheureusement, la météo n'est pas avec nous cette semaine. Donc, on joue à la Jeunette avec beaucoup de plaisir parce que, voilà, on a travaillé une version qui était aussi capable et belle en intérieur. Mais c'est vrai que le projet de départ, c'était d'être en communication directe avec les éléments, avec le Causse, avec la terre Sévenol, avec la terre de Lozère, avec le château de Florac, etc. C'était vraiment l'idée aussi de départ qu'on retrouve différemment à la Jeunette, puisque du coup, on fait plus appel à la technique de lumière. C'est pour ça que Lucie Joliot est en train de travailler en ce moment. Voilà, on va pallier en gros ce manque de l'extérieur par une réussite technique plus approfondie.
Vous l'avez répété, joué, monté, commencé à le travailler sur la terre Sévenol aussi un petit peu, vous avez uniquement fait des répètes à l'intérieur?
Malheureusement pas trop, on a fait une répète à l'extérieur un jour au château pour commencer à anticiper un petit peu les choses, et en fait on a beaucoup répété à la Jeunette en fait.
D'accord.
Voilà, on a eu voilà, après c'est vrai que même à Florac on est quand même malgré tout et heureusement en communication et en communion directe avec les éléments. On a quand même le Causse qui nous protège ou qui nous menace suivant les jours. Voilà, il y a quand même, c'est présent quoi.
On fait pas n'importe quoi des grande divinité, j'entends bien.
Exactement, c'est ça, Camille.
vous tous autour de ce plateau, je vous pose aussi un petit peu la même question. Comment on a envie, comment on a envie de jouer ce texte-là aujourd'hui et de quelle manière, justement, pour vous ? J'aime bien ce genre de truc.
Bah, c'est simple, il y a quelqu'un qui vous propose de le jouer, donc on fait « ah bah oui, pourquoi pas ?» Et puis après, on écoute les options, et puis on se dit « ah oui, ça c'est plutôt bien ». Mais je dirais, déjà il y a un propos artistique, donc soit on adhère avec ce propos artistique, et on part avec ça, soit on se dit « bon, ça ne nous intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, et on le fait pas ». Enfin, je veux dire... Tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire, voilà. Tout à fait.
Donc, à partir du moment où le projet artistique, on va dire, est cohérent et intéressant et révèle des choses où on se dit ça va peut-être nous faire découvrir, ou en tout cas faire découvrir la pièce dans d'autres espaces, et ben, on y va, quoi. On a envie de partager ce challenge. Je crois que chaque pièce est un challenge. Et quand en plus on fait une pièce aussi connue, aussi jouée, on se dit relevons le gant en fait. Voilà, essayons d'en faire quelque chose d'autre. Oui. En tout cas, essayons d'en sortir, parce que c'est tellement riche ces pièces que on peut toujours aller chercher quelque chose qui n'a pas été cherché. C'est le cas avec la proposition de Puck qui prend un pouvoir par rapport à Oberon. On s'est même à certains moments ça a grincé. C'est pas simplement on se dit c'est facile, on y arrive, mais non, il y a des moments ça grince un peu, quoi. On fait c'est pas si facile, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, en tout cas.
Et il me semble que pour nous quatre, on a quelque chose en commun, ce sont des rôles qui nous poussent à la démesure, ce qui est particulièrement plaisant dans notre pratique. On doit tous trouver de la grandeur, quelque chose de
surnaturel, en tout cas de la majesté, en tout cas de... Oui, c'est ça, c'est des personnages qui ne sont pas des personnages quotidiens, loin de là.
Guillaume, Mathieu, peut-être quelque chose à rajouter?
Pas mieux, c'était Mathieu. Très très bien.
Pas mieux. Joker, tout à fait.
Dis pour voir.
Non, mais effectivement, la pièce, déjà en elle-même, la proposition de la pièce, le songe de nuit d'été, ça fait rêver, rien que le titre, de se dire que je vais de pouvoir jouer à cette pièce en extérieur, hélas, on ne le fera pas, mais c'était. Enfin, le projet, déjà en lui-même, était très, très alléchant. Et puis, après, le personnage de Bottom. Connaissant la pièce, je suis assez fan de ce personnage, donc je pouvais pas dire non.
Oui, et en effet, comme le personnage de Puck, ce qu'a voulu en faire Damien est vraiment particulier, parce que j'ai pas vu beaucoup de versions, mais c'est plutôt en général un lutin assez espiègle, mais assez propre sur lui, et là on est parti dans quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus dark. Et à partir du moment où cette option-là est donnée, il n'y a plus qu'à s'amuser, c'est-à-dire retrouver ensuite les cohérences, parce que ça change quand même un tout petit peu le propos du texte initial, mais au moins on sait qu'on n'aura jamais vu une version comme celle-ci dans aucune des versions qui ont déjà été proposées.
Une dernière chose que je voulais vous demander justement par rapport au texte et qui m'intrigue beaucoup, alors on a entendu Damien, pourquoi le songe d'une nuit d'été? Moi j'aimerais bien savoir, parce que c'est une pièce, on l'a tous... vu ou lu la plupart du temps en étant un petit peu plus jeune, que ça soit en cours dans une manière ou d'une autre, ou que ça soit parmi les classiques qu'on a lu ou qu'on a découvert ou que quelqu'un nous a fait lire. Moi j'aimerais bien savoir si vous vous souvenez la première fois que vous avez découvert Le Songe d'une nuit d'été, que vous l'avez lu. Est-ce que c'était quoi? Est-ce que c'était dans un cours chiant? Est-ce que c'était dans un... Comment ça s'est passé?
Moi je me souviens très bien, c'était avec Sylvie, on était à la même école de théâtre, un cours professionnel qu'on faisait tous les deux, et on nous a proposé de le travailler comme un travail de scène classique, et c'était les scènes des amoureux, et on jouait avec Sylvie, et moi j'étais fasciné par l'écriture déjà, et puis l'engagement que ça demandait, et les sentiments incroyables que ça mettait en jeu, quoi. Moi, la découverte de la pièce, c'était vraiment comme ça.
Alors moi, je rectifie parce que je ne jouais pas avec toi, je te mettais en scène.
Ah oui, tu
me
mettais en scène, c'est vrai, pardon. Oui, pardon, c'était Alban et Armel, oui, c'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai.
Et ben, moi, la première fois, c'est avec Damien.
Ah ben oui, dans les stages. Ouais.
Quand je devais avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai joué un des amoureux. À l'époque, j'avais l'âge aussi.
Ouais, c'est vrai, j'avais oublié.
Et voilà, et c'était ça devait être mes premières années de pratique en amateur.
Ouais, c'était la troisième année. Peut-être,
c'est la troisième année.
Ça rajoute une dimension au fait que tu retrouvais les bases de ton théâtre.
Exactement, tout à fait.
Pour le coup.
Moi, je me souviens quand je l'ai lu, j'ai trouvé cette pièce très bizarre parce que elle mettait tout un temps pour installer chaque chose et d'un seul coup, la résolution était. En 2 minutes, tout était terminé, il n'y avait plus de magie. Je me souviens que c'est une des premières choses que j'ai dit à Damien. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse très attention parce que j'avais l'impression que Shakespeare s'était débarrassé un petit peu de cette fin. Et j'ai appris plus tard que cette pièce était une commande pour un mariage et qu'a priori, il l'avait écrite peut-être même un peu plus vite que d'autres pièces. Et c'est aussi pour ça qu'elle est un peu atypique. Et c'est bien d'avoir gardé ce souvenir-là comme première pierre au travail parce que je sais que même si ce sont des scènes qui ne me concernent pas directement, en tant que spectateur, là, je les ai regardées particulièrement pour être sûr que, j'espère, personne ne se dise ça en regardant la pièce en disant « Ah bah mince, d'un seul coup, les choses rentrent dans l'ordre parce que... »
Ouais, en même temps, moi, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a un côté... c'est trop bien, trop vite. C'est-à-dire que la fin, elle est dans un côté où tout se résout tellement bien que c'est à peine crédible, en fait. C'est à peine crédible. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, mais alors, ça cache quelque chose, quoi. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, il a complètement raison sur la genèse de la pièce de Shakespeare. C'est vraiment une commande qu'il a fait pour un mariage. C'est écrit pour jouer dans un château, dans une cour de château, etc. Et on s'est rendu compte, tous autant qu'on est là, que même dans la pièce, il y a quelques incohérences. C'est-à-dire qu'on passait les siècles et tout le monde s'en remet très bien. Mais il y a quelques incohérences. Et moi, c'est pas la première fois que je travaille sur Shakespeare et c'est pas la première fois que je me rends compte que dans ces pièces, il y a tout d'un coup des choses où on se dit, mais oui, mais ça, c'est pas possible. S'il dit ça avant, il peut pas dire ça après, etc. Voilà. Et ça fait aussi partie du charme de cette œuvre-là qui est théâtrale et dont on se fout chez Shakespeare. Et moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment. On se moque totalement du réalisme et on n'est jamais dans le réalisme. Que ce soit le songe, que ce soit la tempête, que ce soit Hamlet, que ce soit toutes ces pièces-là, quoi. Enfin, toute son œuvre, en fait.
François, peut-être aussi ?
Oui, moi, je ne me souviens plus très bien quand est-ce que j'ai lu la première fois la pièce, mais bon, ça devait être aussi, j'étais jeune, voilà. Non, en fait, moi, la pièce, je l'ai lue, mais je veux dire que c'est plutôt La Tempête qui m'a toujours plus intrigué, parce que j'ai eu une rencontre aussi avec cette pièce, La Tempête. Et parce que j'étais en Angleterre avec dans les échanges quand on était jeune, et j'ai été en classe et j'ai étudié La Tempête avec les profs. Donc j'ai une espèce de, comment dire, de choses très affectives avec La Tempête. Mais je dois dire que cette pièce y ressemble dans sa construction beaucoup. Ah, voilà. Dans La Tempête, c'est dans un autre côté, sur un autre côté de l'île, et là, c'est dans un autre côté du bois, en gros. Voilà.
Ouais, mais c'est ça. Puis, le personnage d'Ariel qui est très proche du personnage.
C'est ça,
de
voilà,
Puck,
de Puck. Donc c'est une construction très proche, et c'est pour ça qu'elle est familière aussi, parce que, je veux dire, on se dit, voilà, quand on dit, il l'a construite très vite, il l'a construite très vite, mais sur un schéma avéré, c'est-à-dire pas sur n'importe quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est une création. Enfin, c'est peut-être il s'est autocité, je ne sais pas si on peut dire.
Oui, je pense qu'il y a de ça.
Voilà.
Auditeurs, auditrices, maintenant que vous êtes tous intrigués, voire même émerveillés, on le rappelle, c'est vendredi et samedi, les 25, les 26, à la Jeunette Verte. Donc, à quelle heure, Damien ?
À 21h.
À 21h, tout pile. Merci à tous, en tout cas, d'être venus autour de ce plateau pour en parler un petit peu de votre travail.
Je voudrais juste donner quelques petites nouvelles de la compagnie.
Parce qu'il se passe
plein de trucs en ce moment avec la compagnie. Donc, Je suis un rêve continue, sa tournée, sa carrière. On attend une réponse pour une reprise à Paris, dans un très beau théâtre parisien. Je fais juste du teasing. Mais rien n'est signé, mais on y croit très fort. Et surtout, les bonnes nouvelles là, c'est que Quand j'avais 5 ans, je m'y tuais, qui est donc une production purement floracoise, qui a été répétée, créée et jouée à Florac pour l'instant, va être présentée au Festival d'Avignon l'été prochain, du 6 au 29 juillet, et ensuite 3 mois dans un théâtre parisien, au Théâtre des Béliers parisiens, tous les jours du 15 octobre au 15 janvier, en très gros. Voilà. Et donc on est très content de ça parce que le spectacle va pouvoir être vu, être montré et démarrer vraiment sa carrière, puisque pour l'instant, à part Florac, il a eu très peu de visibilité. Donc on est très 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 fiers de ça et très fiers de pouvoir exporter un produit floracois. Parce qu'il n'y a pas que la charcuterie et le pélardon qui s'exportent.
Oui. Et puis, produit du terroir, nature, ça. Tradition,
exactement.
Patrimoine.
Exactement, donc avec la même distribution, c'est-à-dire qu'avec Robin Cos et avec Jules Martin qui est floracois lui-même, qui est danseur. Et puis donc on est en négociation avec la Jeunette pour reprendre au moment de la soupe et autour des dates de la soupe quelques représentations de à table, peut-être pas à Florac, mais en tout cas dans les petits villages de l'intercommunalité.
Ça fait très plaisir d'entendre tout ça, en tout cas, Damien.
Ouais, je suis d'accord.
c'est logique. En tout cas, merci beaucoup, Damien.
Merci à toi, Camille.
Et merci à François, à Sylvie, à Mathieu, à Guillaume. On vous souhaite d'excellentes représentations.
Et venez à réserver.
Oui, venez
pensez
nombreux.
À réserver,
venez,
dépêchez-vous. Dépêchez-vous. C'est pas encore fait. Oui, c'est
et
pas
si
vrai.
Vous ne réservez pas, venez quand même.
On sait jamais.
Si vous êtes cassé la patte, on se débrouille. De toute façon, il y a du covoiturage. Voilà, merci. Merci à tous.
Merci, Camille.
Merci. Auditeurs et auditrices, il ne vous reste plus qu'à aller voir la pièce vous-même. Avec tout ça, moi, je vais mettre fin à cette émission. Merci encore à Damien et à tous les comédiens, donc je n'arriverai jamais à me rappeler tous les prénoms qui étaient avec nous. Du coup, si François, Sylvie, Mathieu et Guillaume, je crois, c'est ça. J'ai bon ou pas? J'ai bon? À peu près, super, merci. Bon, avec tout ça, moi je vais vous souhaiter une magnifique journée auditeur auditrice. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle matinale. Je vous fais des gros bisous et puis ciao ciao à tous. Bye bye.